Salut à tous, c'est Max de This Music Box. Il y a 15 jours, on sortait le podcast sur It Is Une Fois, premier du nom, Enchanted en anglais. Et aujourd'hui, on vous propose naturellement la suite, It Is Une Fois 2, Disenchanted, qu'on a enregistré à la fin du mois de novembre en live. Bonne écoute à tous.
Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box. Salut Max, comment vas-tu ?
Salut Alex, ça va bien et toi ?
Ça va pas mal. La Disney's...
J'ai essayé de changer un peu la façon de parler aujourd'hui. Parce que oui, ça va bien et
moi,
toi,
moi j'étais
Alex.
Lancé, super. Ah, ouais. Pro ou pas pro, là ? Moi je ne sais pas du tout m'adapter aux choses qui se passent. La Disney's Music Box fait partie du label Et la Bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et le petit dernier mais qui commence un petit peu à dater maintenant, hein, Musicland, et aussi avec le label Et l'Apéro. Il ne faut pas l'oublier
le
celui-là qui est assez
le
récent. Qu'est-ce que c'est
un...
le label Et l'Apéro ?
C'est un nouveau concept qui est apparu durant les vacances de la Toussaint, où en fait un jour on était en Discord avec un de nos chroniqueurs invités les plus fréquents, hein, Valar, qui est aussi un de nos généreux donateurs Patreon. Et puis on s'est dit, oh, il faut qu'on fasse un classement des toilettes à Disneyland Paris. Et on a fait ce classement des toilettes à Disneyland Paris, et puis on s'est dit, bon, attends, la semaine d'après, on va refaire un truc pour Halloween. On a fait les trains fantômes. Et puis après, ça a un petit peu avancé. La troisième émission portait sur... portait sur les trucs disparus à Disneyland Paris. Et ensuite, ce lundi dernier, nous avons fait un live sur Noël versus Halloween. Et nous avons donc l'occasion de recevoir le Sam ce lundi pour parler de sa série audio qui s'appelle donc Echo.
Et que je connais bien car j'y ai fait une voix.
On parlera en plus lundi, mais j'avoue que ça m'intrigue un petit peu. En plus, je crois que t'as fait 5e épisode, d'après ce que j'ai compris.
Exactement, et sachant que les 4 premiers vont sortir, mais que ça sortira plus tard pour le 5e. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. On vous remercie d'ailleurs, les patrons. Merci.
Marie. Merci. Valar et Valarette.
Merci.
Merci Greg.
Merci
Victor.
Merci
Calnoir. Merci Pierre.
Merci
Damien.
Merci
Jérôme. Merci Mirana.
Merci
Samuel. Et enfin, merci à Alice et Lulu, les futurs parents très très proches.
Merci.
Et n'oubliez pas d'appeler votre enfant Maxime.
Nous allons parler de Disenchanted. Riding bikes and flying kites. Now we will be suburbanites and even more enchanted. Disenchanted, mais qu'est-ce que c'est donc ? En fait, c'est aussi Il était une fois deux. Je préfère l'appeler Disenchanted parce qu'Il était une fois deux, c'est un petit peu nul comme nom. Voilà.
Oui.
Après la sortie du premier film en 2007, les réceptions étaient très très positives. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier podcast, nous vous invitons à aller l'écouter très vite. Dès 2010, une suite est prévue au film Il était une fois. Pour une sortie prévue aux alentours de 2011, mais ce n'est resté qu'à l'état de projet pendant très longtemps, avec un scénario fantôme. Les gens ils disaient oui, il y a un scénario, mais tout le monde entend parler sans jamais le voir. D'ailleurs, il y a Alan Menken, hein, le compositeur, et James Marsden qui joue le prince. J'ai oublié son nom.
Edward.
Qui en ont parlé en interview en 2011. Donc voilà, tout était très éthéré à ce sujet. Le travail sur le scénario dura de 2014 à 2020. Et justement, au scénario, on va retrouver dès 2014 David Weiss, qui a travaillé sur Shrek 2 et les Schtroumpfs, et J. David Stem, Pareil, hein, il a bossé sur les mêmes choses, Shrek 2, les Schtroumpfs et d'autres choses bien sûr, sous la supervision de Brigitte Hales, ou Hales peut-être, peut-être plus logique, ouais. Qui a bossé, Brigitte. Elle, sur Once Upon a Time. Ils ont choisi, à la base, Anne Fletcher pour réaliser le film. Anne Fletcher, c'est, on l'a parlé il n'y a pas longtemps, c'est elle qui a réalisé Hocus Pocus 2. Mais c'est finalement Adam Shankman, réalisateur de Rock Forever et de Hairspray, celui qui aurait dû d'ailleurs réaliser le premier film, qui est choisi en 2016.
Shankman, il n'a pas un lien avec Hocus Pocus aussi ? Oui, parce qu'au début, Shankman, je crois, c'est ce qu'on avait dit dans le... Dans... Comme quoi, on a bien retenu aussi nos propres contenus. Je pense que je vais m'abonner à Patreon pour écouter le podcast. Shankman avait réalisé aussi Hocus Pocus 2. Et au final, ben, il a dit, ben non, je préfère me concentrer sur It Is Une Fois 2 que sur deux films en même temps.
Il a été executive producer pour Hocus Pocus 2. C'est ça.
J'ai retenu ce que je disais il y a à peine un mois.
C'est magnifique. On retrouve heureusement les acteurs principaux du film avec bonheur, à part Morgan et Pip. D'ailleurs, on retrouve, je sais pas si t'avais remarqué ça, mais on retrouve la première actrice qui a joué Morgan dans le premier film.
Parce que je me suis posé la question, savoir s'il était ou pas. Après, elle je me suis posé la question si l'actrice en fait était la gamine d'il y a 15 ans, mais j'ai fait le compte qu'à l'époque, elle devait avoir, je sais pas, 5-6 ans, donc maintenant 20-21 ans, donc elle ne pouvait pas jouer le rôle d'une adolescente de 16 ans.
Ouais, mais du coup, je me demande quel âge a l'actrice qui a joué, parce que souvent, les acteurs, ils sont pas vraiment ados quand ils jouent des ados. Et en fait, c'est elle qui rappelle à Gisèle qu'un festival va avoir lieu une fois qu'elle a transformé la ville en conte de fées. Il y a aussi de nouveaux personnages qui apparaissent, dont les antagonistes qui sont joués par Maya Rudolph. Maya Rudolph, vous la connaissez si vous avez vu The Good Place, qui est une série que je vous recommande énormément. Qui est aussi la voix de Cass dans Les Nouveaux Héros.
Il m'a fait une lettre, crois sur moi. Oui, j'avoue que le mot Cass, quand on enlève le son qui fait que, ça fait un truc bizarre, Alex. Je pense que ça peut pas être pire que le navire, hein.
Voilà, exactement. Oh, punaise. On a aussi Yvette Nicole Brown, que vous avez certainement vu dans Community si vous avez vu cette série, et Jaima Mays, que vous avez certainement vu dans Glee si vous avez vu cette série. Le tournage eut lieu entre mai et juillet 2021 dans le village d'Enniskerry, en Irlande. Je suis très content de l'avoir réussi du premier coup. La partie animée, par contre, a été confiée à une compagnie franco-canadienne qui s'appelle Tonic DNA. Et ils sont occupés de la partie 2D de Space Jam Nouvelle Ère, et ils ont bossé entre autres sur DC Super Hero Girls et d'autres choses, dont beaucoup beaucoup de pubs. On retrouve le duo Mencken-Schwartz à la musique et aux paroles, et cette fois-ci, les musiques ont été écrites en collaboration avec les scénaristes et le réalisateur pour les intégrer plus efficacement dans l'histoire, et ça fait plaisir. J'en profite pour caler quelques petites infos amusantes, hein. Bien sûr, il y a énormément de références à des films Disney. Est-ce que tu en as en tête là tout de suite, Max? Ouais.
Moi j'ai vu plein de choses. Alors moi j'ai vu Pip.
Oui.
Pip, hein, l'écureuil quand il est transformé en chat en fait, donc il devient Lucifer, le chat dans Cendrillon. C'est ça. Et dans Cendrillon en fait, il fait tourner son café avec son doigt et il fait la même chose en dessin animé. Il y a Fantasia avec le balai qui balaye tout seul. Il y a les cuillères qui bougent. Bon, il y en a toujours les. Il y a Ray.
Exactement, le principe de la grenouille.
Après, je pourrons tous te les faire ou pas? Musicalement, non. C'est incroyable aussi, mais ça...
Ah, ça oui, on en parlera aussi. Moi, il y en a un que j'ai même... J'ai fait retour rapide, histoire de le revoir, parce que j'ai adoré. C'est celui de La Belle et la Bête. Donc déjà, en fait, quand il y a le premier plan sur Monroeville...
Ville,
Monroeville, c'est la version... Monrolasia, pardon, pas Monroeville, mais Monrolasia.
Oui, donc la version édulcorée.
C'est ça. On a en fait plein de références à La Belle et la Bête parce qu'on a la fontaine, on a une jeune fille qui lit à des moutons et on entend un bonjour en version originale.
Okay.
Donc tout ça, référence claire et nette à La Belle et la Bête. On a aussi plein de références sur les bâtiments de Monrolasia. On a aussi les trois jardinières qui ressemblent aux trois fées. On a le miroir magique, bien sûr. La petite sirène.
Les trois fées. Non, putain, quand t'as dit les trois jardinières, je pensais les pots de fleurs, moi.
Oui, c'est pour ça que j'ai hésité à mettre ça. Les trois filles qui jardinent. On a aussi une dernière référence que j'aime énormément. La petite sirène. Est-ce que tu l'as remarqué, celle-là? C'est la pose sur la charrette avec la vague
j'ai
derrière.
J'ai vu ça en fait, et je vois le truc et je suis merde. Et j'ai remis exprès en retour pour la ref. Mais pareil, on me dit il faut que le sort soit rompu avant la chute de la dernière pétale de fleurs, ou alors avant les 12 coups minuit. Donc les 12 coups minuit, limite, ça c'est un peu trop classique, connu, mais la pétale de fleurs, c'est par rapport à la bête. Et puis à ce moment-là, dans la musique, t'entends le ta la 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 la.
Donc c'est un petit régal, hein, que ce soit au niveau des références visuelles ou sonores. Et nous passons à l'histoire. Gisèle et Robert sont mariés depuis 10 ans. Lassés de la vie citadine, ils emménagent dans le quartier résidentiel de Monroeville avec leur petite famille, dans l'espoir de mener une existence un peu plus féerique. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas sans accroc. La banlieue chic est régie de façon stricte, comme ne cesse de le rappeler Malvina Monroe, gardienne du temple autoproclamé. Résultat, Gisèle se sent plus isolée que jamais. Frustrée que le bonheur promis soit si difficile à trouver, elle fait appel à la magie d'Andalasia et transforme accidentellement son quartier en un véritable conte de fées. Enfin, accidentellement. Elle est bien contente. Elle transforme donc son quartier en Monrolasia. Elle apprend que son souhait aspire la magie d'Andalasia vers Monrolasia et que cet effet sera permanent après minuit, provoquant ainsi la disparition d'Andalasia. Gisèle se transforme peu à peu en méchante belle-mère, Robert en héros de conte un peu raté et Pip en chat. Ah oui, Pip est de la partie aussi. Et Gisèle interdit donc sa belle-fille, Morgane, d'aller à un bal et, heureusement dans un éclair de lucidité, l'envoie en Andalasia trouver de l'aide. Pour faire en sorte que Gisèle revienne à elle, Nancy et Edward lui parlent du pouvoir des souvenirs. Ah, la musique est belle. Et là, il y a un gros combat entre Gisèle et Malvina Monroe, la reine de Monrolasia. Et après, il y a plein de rebondissements dans une folle course contre la montre, mais heureusement, tout finit bien avant les 12 coups de midi. Minuit. Avant les 12 coups de minuit.
12 coups de midi, c'est pas la même chose. Il y a Jean-Luc Reichmann dans le film.
Morgane se réveille dans leur maison qui a retrouvé son état normal dont seule elle et Gisèle se souviennent des événements, tandis que tout le monde croit que c'était un rêve. Un résumé un petit peu court, mais je voulais pas trop en dire, puis c'est très long sinon.
Oui, l'histoire est quand même plutôt simple par rapport à ça.
Oui, c'est un peu... L'histoire est assez bateau, mais tout ce qu'il y a autour, par contre, ah là là, vous allez voir avec la musique.
Je voulais juste faire un tout petit point par rapport à une petite incohérence par rapport au scénario.
Vas-y, en profite.
Bon, il y a l'histoire de Morgane appelle Gisèle maman, à force, tu m'étonnes, la gamine, elle a rencontré, elle avait 4 ans, maintenant elle en a 16, elle a vu grandir tout ça, c'est ça.
Oui,
bien.
Ça passe.
Pourquoi pas. Mais le problème, c'est que... Et c'est normalement un être, c'est une personne avec du sang d'Andalasia qui est censée pouvoir résoudre le problème.
Et oui, alors c'est en Morgane vrai, comme qui elle est allée,
parce
comme
que
elle
c'est sa mère
en Andalasia.
Ah, sur ce point-ci, je suis d'accord. Normalement, c'est vraiment la personne qui a du sang d'Andalasia. Et puis non, t'as Gisèle qui fait. Ça, par contre, c'est vraiment la seule incohérence qui m'a un peu déçu du film. C'est Gisèle qui dit bah si, c'est bon, t'inquiète pas, t'es ma fille aussi, t'as du sang dans l'Asia, vas-y, respect, et puis go.
Oui, mais ça reste un conte de fées, donc ça passe.
Ouais, là, j'avoue que c'est un peu une incohérence qui on a fait mieux niveau solution comme ça.
Je te le concède. Tu prends celui que tu veux, le con ou le 7, c'est toi qui vois.
T'inquiète pas, je suis déjà à l'apéro le lundi.
Et nous passons effectivement à la musique.
will be not just because batter, I will be not just batter, 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 nasty, everlasting, flabbergasting. Very, very batter, stop the ball.
Donc la musique, comme tu dis, Alex, juste avant, a été composée par Alan Menken, autant sur les chansons que sur les instrumentales, et donc Stephen Schwartz qui a fait le parolier. C'est Michael Kosarin qui a fait les arrangements des chansons et qui a dirigé la musique, dirigé l'orchestre qui a enregistré la musique. Et les orchestrations et arrangements sont de Dave Messger, qui a fait aussi les arrangements pour, par exemple, Vaiana, Frozen 1 et 2, Tarzan, aussi beaucoup de films.
Ah oui.
Il a fait Armageddon aussi, bref, c'est un mec qui passe bien dans le métier.
On peut pas tout réussir.
Non, il a fait Frozen. Mais il a fait le 2. Il a fait le 2, ça rattrape. Menken, ici, signe son retour dans une production Disney officielle, vraiment à fond, depuis Réponse.
Ok.
C'est-à-dire que la fois que tu avais fait vraiment un film complet où tu étais occupé de la musique instrumentale et puis des chansons, c'était Réponse. Il a écrit une chanson pour le film Ralph 2.0, la fameuse chanson où la princesse Vanellope et. La princesse Vanellope se voit comme une princesse et puis elle vit une vie différente. Oui. Et puis il a aussi écrit la chanson, c'est pas Speechless, c'est l'autre, c'est dans Aladdin. Il a écrit la chanson en plus dans Aladdin. Plus
toujours aussi, pas vu.
plus aussi les deux titres supplémentaires dans La Belle et la Bête, le film de 2017. Et puis ben, l'année prochaine aussi la musique de La Petite Sirène. En duo avec Lin-Manuel Miranda. J'ai un tout petit peu peur de ce qu'ils vont faire, mais c'est un autre débat.
C'est quoi déjà la phrase? Mais cela ne nous regarde pas.
les orchestrations additionnelles sont de Steve Bartek, qui a lui composé la musique de Dingo et Max 2, qui a aussi composé la musique de Mitzi Robinson, ou orchestré la musique de Mitzi Robinson peut-être. Et c'est un des fondateurs d'un groupe de rock plutôt connu.
Ah bah oui.
Les Ongo Bongo.
Bah oui, très connu, Danny Elfman, le chanteur. Ouais.
Donc c'est pour ça que par exemple on retrouve beaucoup Bartek composer des musiques avec Danny Elfman.
Oui.
Est-ce que j'ai des titres tout de suite sous la main? Bien sûr. Et donc il y a Pete Anthony qui a aussi orchestré et dirigé a orchestré les musiques de Atlantide, Dinosaur,
ouais,
Raya.
Je le connais, il est pas grand lui.
C'est lui aussi qui a dirigé la musique, qui a dirigé l'orchestre pour Mitzi Robinson, et puis aussi qui a dirigé l'orchestre pour La Planète au Trésor. Sur le point de vue de l'histoire de la musique, en 2018, donc Adam Shankman, qui a donc réalisé le film, a annoncé qu'il y aurait beaucoup plus de chansons, et a annoncé aussi, je crois qu'il a annoncé en janvier qu'il y avait plus de chansons, et puis en mars, il a annoncé qu'en fait le duo Menken et Schwartz allait revenir. Il y a une confirmation par Menken en 2020 de leur retour avec Stephen Schwartz, et il a ajouté durant cette interview, parce qu'il a confirmé leur retour, qu'au lieu d'écrire de la musique pour les acteurs de manière un peu individuelle comme ils ont fait pour le premier film, ils ont vraiment écrit avec Schwartz des chansons qui allaient en fonction des personnages et du scénario, donc en gros un retour à la comédie musicale vraiment beaucoup plus imposant.
Bah là, c'est clair et net, hein, ça s'entend tellement.
Ce qui avait peut-être un petit peu manqué, même si on avait dit que sur scène, ça serait très très bien de pouvoir mettre une fois sur scène, c'est ce qui avait peut-être un petit peu manqué dans le premier. Mais le premier aussi était une grande, entre guillemets, parodie, autodérision. C'était un grand film oui. Plein d'autodérision de la part de Disney, qui... Attends, peut-être pas une comédie musicale, ce qu'on voulait c'était vraiment un truc un peu divertissant, parce que Disney se fout de sa
gueule. Pour le coup, c'était clairement. Vraiment un film Disney avec des chansons. Ouais. C'est vraiment ce qu'on disait hein, la dernière fois, je crois.
Et donc dans ce film, en fait, il y a 7 chansons, plus 3 reprises de ces chansons, plus un arrangement pop, donc une 4e reprise, mais donc un arrangement pop pour la version générique de fin, comme ils ont l'habitude de faire chez Disney.
Ouais, ouais.
Donc il y a la première chanson, ça s'appelle Andalasia. Ah, mais peut-être que je peux prendre, peut-être que je l'ai pas supprimé de mon PC ce fichier. Oui, je l'ai pas supprimé de mon PC ce fichier. Hop. La première chanson s'appelle donc Andalasia.
On est d'accord que là c'est marqué sur ton screen Andalousie.
En fait,
c'est quoi que t'as fait?
J'ai été sur Wikipédia, j'ai pris la page Wikipédia, j'ai fait traduire.
Oh,
français.
Ça va être extraordinaire. Je vous donc, dirai la version française Wish à chaque fois, vous allez voir, vous allez adorer.
Attends, faut que je retrouve les titres en anglais maintenant. Evermore Enchanted, le deuxième. Donc encore plus enchanté.
Encore plus enchanté. Attends, pardon. Vas-y, continue.
The Magic of Andalusia.
La magie de l'Andalousie.
De l'Andalousie, ouais. Oh putain, mon dieu. Fairy Tale Life.
La Wish. Vie de conte de fées, le souhait.
Fairy Tale Life After the Spell.
La vie de conte de fées après le sort.
Perfect.
Parfait.
En fait, je savais pas qu'ils avaient écrit une chanson sur moi, mais. Badder.
Plus méchant.
Love Power.
Le pouvoir de l'amour.
Donc il y a eu cette chanson-là une reprise. Donc on est déjà à deux reprises. Et une dernière reprise de Evermore Enchanted.
Encore plus enchanté.
Ensuite, il y avait donc trois chansons ajoutées, trois chansons qui ont été coupées au montage, dont une qui était chantée par Dempsey. Patrick Dempsey.
Oui.
Patrick Dempsey qui fait sa première prestation
chantée
dans ce film. Et la suite de partition d'enchanté, donc la suite de Il est une fois deux, qui elle, bien comme d'habitude, reprend toujours un petit peu des motifs, les motifs les plus importants, si on peut dire, du film, et puis il est mis sous forme de suite. C'est comme ça, par exemple, qu'on a eu la suite d'Il est une fois, la Enchanted Suite, qui a permis d'avoir les feux enchantés à Disneyland Paris.
Qui sait, peut-être qu'on en aura d'autres.
Je pense pas avec la version de l'album, là, pas la suite de It's a X2.
Non, celui-là, non.
Parce que,
elle est très calme.
Très très calme, ouais. C'est assez, ouais. C'est assez surprenant, oui.
Alors qu'il y a des... Enfin, désolé, on en reparlera, mais Love Power. les capacités de ce morceau.
Le film s'ouvre sur la chanson Andalasia, qui est le leitmotiv de la magie de manière générale. Et de manière concrète, en fait, si de manière un peu abstraite, donc on a la magie, et si on doit la matérialiser dans le film, c'est donc Andalasia, ce moment de magie. Cette chanson permet aussi de faire un petit retour sur le contexte du premier film, ou même un peu plus loin, parce qu'on raconte la vie de comment ça s'appelle ? De Gisèle, bébé.
Oui.
Et donc c'est Pip qui raconte ça à ses enfants, en fait, qui raconte que oui, il s'est passé un livre de Enchanted, et puis moi dedans, j'y suis dedans, et puis oh, c'est pas très bien ce que j'ai fait.
Et on est d'accord d'ailleurs que ça ne sert à rien de parler de l'enfance de Gisèle.
Non, en fait ça aurait pu être développé lorsqu'ils ont dit oui, il faut le sang de quelqu'un dans Thalésia, mais ça aurait pu être développé là, mais en fait non, ils l'ont pas fait, c'est con.
Ça aurait pu bien être développé comme quoi, Gisèle aurait très bien pu venir du monde réel.
Oui, ça aurait pu être très bien ça aussi, mais ce qui fait qu'après elle aurait pas eu son dans Thalésia pour résoudre le problème final.
C'est vrai. Bah après, justement, ça peut montrer qu'une humaine qui vient du monde humain, peut vivre, en passant en Andalasia, devient andalasienne.
Un petit peu de dessin animé. Tout à fait. Et moi, cette piste-là, j'avoue que je l'ai un peu écoutée en boucle parce que je l'ai trouvée super géniale. Parce qu'en fait, dedans, on retrouve des chansons du premier film. Vu qu'on raconte le premier film, on retrouve des chansons du premier film. Le premier, hein. Et ben en fait, c'est la seule chanson qu'on ne retrouve pas dans ce que vient de chanter Alex. C'est la seule chanson qu'on ne retrouve pas dans cette introduction.
Non, je me suis gouré. Attends, c'est quoi déjà l'autre?
On a un baiser pour l'intro.
Un baiser, c'est ça. C'est celui-là que je voulais dire.
On a travaillé bien en chantant. Dans la piste de l'album, on retrouve pas la musique précise, par contre on retrouve des effets un peu pareils.
Oui.
On a Cyprès, cette chanson d'amour, c'est peut-être ma chanson préférée du premier film. Et d'un coup avec le petit medley de Ever Ever After. Parce que d'habitude je chante mal, là je chante encore plus mal. Et donc on a ce grand résumé qui moi me rend dingue. Juste parce que c'est mon côté, je suis taré parce que j'entends des musiques que je connaissais déjà d'avant et que je trouve ça cool d'avoir repris les musiques du premier pour les foutre dans le deuxième, tu te rends compte? Il y en a, ils font
un travail.
Oui, tu te rends compte qu'il y en a qui font des films pour Disney où est-ce qu'ils ne s'amusent même pas à reprendre des leitmotifs, des bouts de chansons pour les mettre dans les musiques instrumentales, alors que là Mencken a fait un truc encore mieux, c'est qu'il a été chercher les musiques d'avant pour les mettre après. C'est incroyable, le mec. S'il vous plaît, revenez.
Mais après, revenez, ça c'est Andalasia, non, je suis bête, c'est l'intro, oublie.
Après, si Alan Mencken a repris ses musiques, est-ce qu'on peut dire que c'est Alan Menten surtout?
Et donc après on a quoi?
Depuis hier, je voulais caser cette blague. Il pourrit ce jeu de mots. Et en fait, ce thème donc là, de d'Andalasia, ça fait Andalasia, Andalasia. Et en anglais, Andalasia, Andalasia, qui est beaucoup plus joli. Et en fait, cette petite mélodie, ce petit motif est repris dans la chanson La magie d'Andalasia, où est-ce que donc Edward et Nancy reviennent dans Andalasia pour pouvoir aller féliciter comment il s'appelait Gisèle et son compagnon d'avoir acheté une maison. Et c'est à ce moment-là en fait que il y a Nancy qui rassure Gisèle en disant mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, et puis la magie a fait tout ça, et puis c'est trop cool. Donc en fait, il y a une sorte de double utilisation de ce leitmotiv dans deux chansons différentes qui n'ont aucun rapport l'une entre elles. C'est pour ça en fait que j'en ai dit que ce thème-là, c'était le motif de la magie de manière générale. Et à noter que juste avant cette chanson, en fait, Nancy et Edward, donc Nancy qui est interprétée toujours par Idina Menzel, à retenir, ils arrivent sur la chanson Un baiser. Parce que Un baiser, en fait, ça c'est ce qu'on dit dans le podcast sur Enchanting, si vous écoutez le podcast qui est sorti il y a 15 jours, ce thème, Un baiser, en fait, c'est le thème de l'amour utopique.
C'est ça.
Il y a l'amour utopique, l'amour dans Andalasia, et puis en fait, il y a Cyprès qui est l'amour dans le monde réel avec. Avec New York City. On entend une référence qu'on continue dans le film, on entend donc le était Aphrodite donc.
Non, ça passe ça, l'arc-en-ciel.
Merci. Donc ça c'est toujours l'appel aux animaux. Oui. L'appel à la magie. Et puis donc il y a Gisèle qui dit aux animaux oh, mais oui, mais surtout vous inquiétez pas, les gens vous aiment. On parle bien d'un pigeon qui vient de bouffer un morceau de hot dog.
Oui.
Et juste à la fin, on entend That's How You Know. Alors, par contre, j'ai pas compris pourquoi. Il y avait ce passage à son là. J'ai vraiment pas trouvé le truc.
Parce que, genre, peut-être elle recherche ce qu'elle vivait à ce moment-là.
C'est peut-être un petit peu ça, ouais. C'est ce que je me suis posé. Ou après, That's How You Know dans le premier film, c'était comment savoir si on s'aime. En gros, c'est la réflexion de la preuve d'affection. Est-ce que c'est la preuve d'affection des animaux ? Enfin, je pense plus sur ton idée que sur mon idée, Alex. Et ce thème, That's How You Know, on retrouve aussi plus tard dans le film lorsque elle arrive à Monroeville et en fait, elle voit le flyer comme quoi il va y avoir la Monroe Fest.
Oui.
Et puis vu que c'est une fête, on met une musique festive. En plus de ça, qui fait la réflexion de comment Morgane elle pourrait se faire apprécier tout le monde, on va faire une fête. Et comment en fait, elle a réussi un peu à draguer Patrick Dempsey dans le film, c'est en faisant sa fête dans Central Park. On a ensuite la chanson donc Evermore Enchanted, qui est un petit peu le travailler bien en chantant. Du premier film, on peut faire un peu des comparaisons. Dans la construction de la musique, et c'était déjà un peu le cas de la chanson originale, en fait, on a un petit mélange entre la chanson Belle, la chanson d'ouverture du film La Belle et la Bête, et y a, la chanson Il y a quelque chose, dans son regard,
ouais.
Peu léger, réorbisé comme un espoir. Et c'est le plus beau des romans.
Oui.
C'est la même chose. Hein. On est sur Gisèle qui chante, donc qui parle, qui chante très très vite avec notre pic en dessous. Et puis d'un coup, elle fait un autre passage où est-ce que c'est beaucoup plus lyrique. Donc elle convainc Morgane en faisant un truc. Elle me dit à Morgane que la magie c'est cool en faisant un truc rapide. Et puis d'un coup, elle laisse un petit peu de l'attendrir et puis rappeler un petit peu son passé avec la partie beaucoup plus.
Un petit peu plus sentimentale, oui.
Lyrique. Le truc parfait Alan Menken. Alan Menken fait un peu à peu près ça un peu partout quoi. Il a fait ça aussi par exemple dans Aladdin avec Je vole. Rien qu'un morceau de pain. Là c'est la partie lente et oui. Puis je vole comme un aigle royal. Puis l'inverse. C'est le système de Menken. Sa mélodie revient à partir du moment où Morgane part en Andalasia dans les leitmotifs. Ce qui fait qu'en fait on comprend que Evermore Enchanted c'est pas la magie au sens large tel qu'on l'a dans Andalasia. Mais en fait c'est plutôt la magie spécifique à Gisèle et en fait c'est plutôt la magie de la famille. Donc, comme je disais hein, cette chanson là c'est du gros Menken comme on les aime, et entre son introduction qui est incroyable et celle d'une ouverture de comédie musicale où est-ce qu'il reprend plein de thèmes tout ça, et puis là d'un coup première véritable chanson du film Evermore Enchanted, est-ce que de la magie d'Andalasia revient après.
Mais en vrai
c'est
là,
vraiment du gros
Menken
comme on les aime. Ouais.
C'est presque comme si c'était une comédie musicale séparée par un entr'acte.
C'est
on a eu le premier film, c'est la première partie, premier acte. Hop, et là on reprend effectivement, et souvent dans les quasiment tout le temps dans les comédies musicales, il y a ce qu'on appelle l'entracte, qui est le morceau justement juste après l'entracte, qui reprend des thèmes qu'on a déjà entendus pour donner, ouais, pour remettre le spectateur, oui, dans l'univers. C'est totalement ça.
Tout à fait d'accord avec toi. Donc l'entracte, nouvel acte, donc nouveau lieu, nouveau endroit de lieu. Ouais, c'est ça. Oui, putain, j'ai pas pensé à ça. Donc, Vasa Uno revient, on prépare la fête de Monroe Fest, c'est un petit peu comme ce que je disais avant. Et c'est à ce moment-là, donc, normalement, la chanson d'Atalasia arrive. Donc, ils reviennent, ils offrent les cadeaux, donc la baguette, le rouleau, tout ça. Et puis, Gisèle essaie de convaincre Morgane qu'elle va passer des super moments à Monroeville. Ça se passe pas bien. Elle rentre de l'école, elle s'engueule avec sa mère.
Belle-mère.
Oui. Et à ce moment-là, t'as Gisèle qui chante la chanson Fairy Tale Life, la première partie, qu'ils ont mis en plus vraiment dans l'album, entre parenthèses, Wish. Donc c'est vraiment le souhait. Gisèle, en fait, c'est le I Wish, c'est la chanson I Wish du film.
Oui.
C'est un peu bizarre parce que j'en ai trouvé deux, moi. Mais donc c'est la chanson I Wish du film, au final, cette chanson-là. C'est Gisèle qui aimerait bien, en fait, retrouver sa vie de conte de fées comme elle l'avait avant, avec Morgane, en fait, qui comprend, qui n'est pas une adolescente tataclaque. Moi, cette chanson-là, au niveau de l'écriture, elle me rappelle beaucoup la chanson How Does a Moment Last Forever du film La Belle et la Bête.
Oui.
La chanson de Céline Dion, celle qu'on retrouve encore dans Disney Illumination. C'est une I Wish de Mankind telle qu'on les aime. Je peux pas en dire plus parce qu'en fait, ces I Wish ressemblent toutes, en sens, ces musiques se ressemblent toutes en général, mais elles sont tellement bien faites en fait qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas, tu l'as marqué, de la comédie musicale comme on l'aime. Pour moi, c'est pas un vrai morceau de comédie musicale.
Est-ce que ce serait plus un morceau de comédie musicale de film?
Je suis assez d'accord là-dessus, par contre, oui. C'est un morceau de film musical, mais pas scénique.
Le suivant, Fairy Tale Life After the Spell,
après le soir. Pour le coup, oui. Plus. Mais je parlais beaucoup plus tard. Le 11 o'clock.
oui. Une chanson. Bref, Fairy Tale Life After the Spell, c'est la reprise donc de After the Spell, comme dit, hein, le Wish After the Spell, voilà. C'est la reprise en fait du de la chanson d'avant. Avant, c'est très calme, intime. En fait, Gisèle est triste, et puis c'est le I Wish, donc c'est toujours un peu plus calme et poignant. Et puis là, d'un coup, en fait, ben, son souhait, c'est exaucé. Donc c'est la grande fête. C'est clairement, pour moi, une reprise de Be Our Guest.
C'est totalement ça.
Mais voilà. Et je vais pas m'en plaindre, parce que c'est vraiment très, très bien fait. C'est des tableaux qui bougent, qui évoluent, avec plein de styles différents qui apparaissent, tout ça. Il y a plein de refs à La Belle et la Bête. Donc, Be Our Guest. Au niveau de la musique, dans les paroles, en fait, ils font clairement une petite version de Be Our Guest dans le machin. Tu vois les cuillères qui bougent, tu vois les différents accents de la cuisine qui bougent aussi, donc le ballet de Fantasia qui est là, mais bon, ça fait penser un petit peu aussi à La Belle et la Bête. T'as les gens qui passent dans la rue, qui dansent, qui leur disent bonjour, qui les... C'est la même chose. Dans la musique, il y a l'appel de Gaston. Et l'appel de Gaston, dans La Belle et la Bête, le film de 2017. Pam 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 pam. Ça c'est Gaston, c'est ce qu'on entend en fait quand Gaston arrive dans le film. Je crois peut-être même dans le dessin animé. Donc en plein milieu la chanson Belle.
Oui, totalement.
C'est le même truc. Parce que de toute façon Patrick Dempsey dans ce film là, c'est un petit peu un Gaston. C'est un Gaston touchant et bien. Contrairement aux autres. En fait, c'est un prince, plus qu'un rustre.
Ah, totalement.
Et c'est vraiment un des moments les plus incroyables du film.
J'ai été très agréablement surpris de voir ce moment, justement. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, ouais, ils ont assuré.
Oui, oui.
Avant, le début du film. Voilà, les premières demi-heures, c'est.
Mais c'est fait exprès. Pour moi, c'est fait exprès.
Oui, c'est logique.
Après. Chanson suivante. C'est Perfect, qui donc pour moi le deuxième I Wish du film.
Oui, le I Wish de Morgane du coup, oui.
C'est ça. Donc en fait, Morgane, donc, qui est une adolescente en pleine rébellion, d'un coup, en fait, exprime ses sentiments, mais ses sentiments en tant que gamine dans le monde d'Andalasia, donc qui est à l'opposé de ce qu'ils vivent dans le monde réel. Mm. C'est en fait qu'elle se rend compte à quel point elle veut avoir une famille qui l'aime. Et voilà, et elle veut aime sa famille, et puis sa famille l'aime. Bref, une vieille biche, tout ce qui est le plus classique, quoi.
Oui, clairement.
C'est toute l'histoire est classique, mais c'est la mise en scène qui attrape vraiment bien le truc. Et au début de la séquence, il y a trois personnages qui parlent à Morgan. Dedans, on a James Monroe Iglehart, qui est en fait le génie dans Aladdin.
Le premier génie qu'il y a eu à Broadway, oui.
Ouais, à Broadway. Il y a Anna Arada.
Il a aussi récemment été dans Hamilton.
Il y a Anna Arada, qui a joué dans Avenue Q, dernière référence, et celle-ci, Alex, que je l'ai trouvée, je l'ai vraiment écrit, c'est que pour toi. Hein. Il y a Michael McCurry Rose, qui a joué dans Wicked.
Et il a joué Fierro d'ailleurs dans Wicked.
C'est ta référence à chaque live dès qu'on parle de Schwartz.
Et là, directement, on voit, bon, un peu moins pour Anne Harada, je me demande si elle a pas fait autre chose depuis. Je vais éternuer. Mais c'est pas grave.
Vas-y, moi je tousse, toi tu t'amènes. Parfait.
Ouais. Je me demande si elle a pas bossé dans autre chose qu'Avenue Q. Parce que c'est. Je vais pas dire que c'est pas logique, hein. Elle a fait beaucoup de choses dans Avenue Q, elle était très connue à l'époque. Mais je me demande si elle a pas bossé justement avec les deux Zigoto là.
Le coup Anderson Lopez avec James Monroe et Gellert et puis Michael McCurry Rose.
Non, avec Menken et Schwartz. Non, elle a fait Butterfly, Suicide Call, Avenue Q, Les Misérables, 9 to 5, Cinderella et Into the Woods. Mais c'est tout.
Ok. Ah oui, Les Misérables, Into the Woods, Butterfly, pareil, c'est pas non plus n'importe quoi.
Ah non, dans tous les cas, c'est pas n'importe quoi. non, elle a pas l'air d'avoir fait grand chose de vraiment Disney.
Donc, le fameux I Wish, où est-ce que dedans on voit donc l'actrice qui fait Morgan qui se met en haut d'une petite butte, une femme derrière qui balance un saut, et puis ben, ça fait une éclaboussure comme dans La petite sirène.
Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce moment-là, justement, de l'éclaboussure, c'est que je l'ai repassé justement plusieurs fois juste pour ça. Elle envoie le saut, et deux secondes après, il y a l'éclaboussure.
L'éclaboussure arrive bien après, et surtout en fait la gueule de l'éclaboussure par rapport à la taille du saut est ridicule.
Tu sens même que le mec il a dit merde, c'était la bouton,
mettez de l'eau.
Et d'ailleurs c'est à ce moment là aussi que les gens ils s'arrêtent à un moment,
un petit peu avant, un petit peu après, oui,
ouais, et ce moment est très beau, sauf qu'il y en a une qui a bougé et je l'ai vu et ça m'a cassé le truc.
C'est le travail de l'image là-dedans, en fait, avec les profondeurs vis-à-vis des différentes personnes qui ne bougeaient pas, qui m'impressionnent.
Oui, ah oui, c'est super. Ce genre d'effet très scénique, encore une fois, comme effet.
Chanson suivante, la chanson des méchants, un tango très sensuel montrant le duel entre Monroe et puis Gisèle, à la manière de Scar avec Biff Reppert, ou Ursula et Poor Unfortunate Soul.
Moi, pour le coup, ça me fait penser à Rent.
Ah, par contre, Rent, j'ai pas la ref. Moi, si ça part de Disney, j'ai pas la ref.
C'est pas une chanson de méchant, mais Rent, c'est justement là où était Indina Menzel. Du coup, ça me fait penser à ça.
D'accord.
C'est un morceau, justement, entre deux filles en couple, où ça se passe mal, et du coup, ça y va à fond. Rent aussi, où il y a le tango Maureen, où ça parle d'Indina Menzel. Ça m'a amusé un petit peu que ça fasse un petit peu tango comme ça.
D'accord. Oui. Oui, en façon, en général, dans les comédies musicales, dès qu'on veut montrer un petit peu une dualité entre des méchants ou un moment un peu sombre, on met toujours un tango.
Oui, et encore plus que le Be Prepared de Scar, il y a le tango de Scar dans la comédie musicale, qui pour
dans la chanson qui est discret mais présent, dans la comédie musicale qui est hyper présent.
Ah oui, et qui est extraordinaire, le tango de Scar. Je suis pas sûr que ce soit ça le titre de tango de Scar. La folie du roi Scar, oui. C'est ça le titre. Qui pour le coup est un vrai tango extraordinaire. Pour Bader, c'est là aussi qu'on voit énormément de références à d'autres films et d'autres. On a la pomme, on a. Non, c'est quoi quand elle ouvre là, justement, Monroe? Quand elle ouvre plein de trucs et qu'il y a plein de trucs qu'on voit. Elle ouvre des placards à chaque fois pour voir.
Pourtant, je suis plutôt calé par rapport à ça. Hein. J'ai adoré chercher les références, mais alors celle-ci. Je cherche un film où est-ce qu'on ouvre des portes?
Non, non.
Des placards.
Attends, je vais couper le son et alors, je vais le regarder.
le temps que tu retrouves le truc, la maison de Monroe et la maison de Giselle, ce sont les mêmes maisons.
Oui.
Donc en fait, ils ont beau évoluer, c'est juste la déco qui a été changée. Est-ce que c'est un souci de décor? Est-ce qu'il y a vraiment la dualité qui met encore en plus en valeur là-dedans? Peut-être les deux. Et quand tu regardes, en fait, t'as un escalier au milieu, ça parle de chaque côté, ça fait penser un petit peu à la Belle et la Bête.
Là, c'est ça, je l'ai. Il y a justement le truc sur lequel se pique le doigt avec Cendrillon. Il y a la rose de la Belle et la Bête. Il y a le Drink Me d'Alice au Pays des Merveilles. La pomme empoisonnée. Plein de potions, bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est à ce moment-là, justement, qu'on voit beaucoup les trois fées.
Et donc, oui, voilà, moi, je pensais vraiment à c'est ça qui m'intéresse le plus, hein, cet escalier de la Belle et la Bête.
Oui, ah, clairement.
Qui,
ou de Phantom Manor.
Vraiment.
Plus d'infos sur Secret Disney, tapez la Belle et la Bête Phantom Manor et vous l'aurez.
Vendredi soir, quand j'ai regardé le film, Margot me dit « Regarde, ils ont le même escalier. » Et puis je suis « c'est comme la Belle et la Bête. » Et dans ma tête, j'y ai pensé. Je me dis à Alex, regarder le film et puis faire « Oh, c'est Phantom Manor. » Patrick Fury, Juzignati. On parle de la Eleven O'Clock juste après, mais on finit le film par une reprise de Evermore Enchanted, donc qui est clairement une reprise assez copier-coller donc de la première fois. L'orchestration est à peu près la même, il n'y a pas de grande évolution par rapport à ça. Sauf la magie de Giselle en fait est rétablie, puis tout est revenu comme avant. En fait, c'est la magie de Giselle, c'est la magie présente dans le monde réel. C'est rigolo. Et non pas la magie de Zadia. Et la chanson de 11 O'Clock, donc peux-tu nous rappeler, Alex, pourquoi on dit 11 O'Clock ?
11 O'Clock Song, c'est à l'époque où les comédies musicales à Broadway commençaient vers 20h30. Vers 23h, il y avait souvent un morceau qui était très important, car environ une demi-heure après, c'était la fin du spectacle. Du coup, il fallait un morceau qui rentre dans la tête, qui rentre dans les esprits, pour que les gens puissent le chantonner un petit peu en sortant et puissent s'en souvenir. C'est donc l'Eleven O'Clock Song, qui est souvent un showstopper, un morceau qui arrête vraiment le spectacle, où là, on applaudit à la fin tellement c'est extraordinaire. Et donc, c'est un des morceaux clés de la comédie musicale, où on comprend souvent les choses, où souvent les personnages sont en introspection encore plus intense que d'autres morceaux. Et voilà, c'est le gros morceau de la comédie musicale.
T'as dit le mot introspection, moi, je suis bluffé.
Je suis fatigué en plus.
Moi aussi, j'ai utilisé des mots difficiles. Chanson. Donc c'est une chanson. Donc la chanson est interprétée par le personnage de Nancy, qui est interprétée par Idina Menzel. Et cette chanson-là, elle est vraiment incroyable.
Et
la performance de Menzel est sublime. L'orchestration de Menken, l'évolution dramatique est incroyable dans la musique. L'orchestration faite par Mesger t'es sur le cul, quoi. Enfin, vraiment, c'est une chanson qui est très très bien faite. Extrêmement bien faite. C'est con, en fait. C'est des musiques d'Alan Menken, des musiques à la Menken, qui nous manquent vraiment.
Oui.
C'est des musiques que, on n'a plus, en fait. Et ça fout le seum, putain, ça fout les boules. C'est qu'on va se taper des... Enfin, cite-moi une chanson comme Love Power depuis... depuis Pocahontas, depuis Bossu Notre-Dame. Allez, Hercule, pourquoi pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Et les trois films que j'ai cités, ce sont trois films de... Si. Pardon. Si. Bon. Je suis mauvaise foi. Show Yourself, dans Frozen 2.
Oui.
Et tout aussi bien travaillé.
Oui.
Réponse, il n'y a pas. Je réfléchis. Frozen 1. Le renouveau n'est pas. Ouais. C'est la même idée, mais c'est peut-être pas aussi poussé non plus.
Le renouveau, là, qui est le 11 O'Clock Song de Frozen.
Voilà. Show Yourself, qui est cette chanson de 23h aussi, c'est peut-être la dernière qui a été autant poussée chez Disney. Et c'est hier contre temps, il y a quand même eu Encanto, Oui, parce que Bob Iger est revenu, donc le créatif va bientôt revenir. La chanson est vraiment super. Et donc c'est la chanson en fait de transition entre le moment où t'as... Donc Morgane est parti en Dalasia pour pouvoir résoudre le problème. du souhait de Gisèle. Et donc c'est Indina Menzel, donc Nancy, qui lui dit ben en fait il faut que tu repartes à Andalasia parce que faut que tu repartes à Monrovia parce qu'Andalasia en fait est en train de se détruire pour donner toute sa magie à Monrovia. Avec tous les effets négatifs, avec tous les effets négatifs que ça. Donc Indina Menzel va accompagner Morgan. Et donc à ce moment-là, en fait, le moyen de faire ce voyage, cette transition, c'est de faire une chanson. Donc c'est donc de faire Love Power. Et en fait, cette chanson, c'est ce qui explique que ben, c'est l'amour que Morgan a pour Gisèle, surtout en fait, qui peut résoudre les problèmes.
Oui,
ce qu'on avait perdu au début du film. Enfin, ce que Morgan avait perdu au début du film vis-à-vis de Gisèle. Enfin, elle n'a pas perdu l'amour, mais elle a perdu la manière de le montrer et puis de le vivre.
Et aussi le respect un petit peu aussi, hein, oui. Faut l'avouer.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ben pour qu'en fait elle puisse passer du mode dessin animé au mode film, elle s'élève dans le ciel les deux avec des lumières jaunes qui tournent de tous les côtés.
Clairement la Belle et la Bête.
Aujourd'hui Shrek 2. Et en Shrek 1 avec Fiona. Shrek 1, ouais. Mais c'est la Belle et la Bête. Et puis à ce moment-là, du film, en fait, ça fait tan 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 tan, qui est le thème de la magie dans la Belle et la Bête.
Ça, j'avoue, j'étais dans le métro à ce moment-là quand je regardais le film et j'étais le seul con, les larmes aux yeux en train de regarder la version des animés.
Mais moi j'étais comme un dingue, trop con, ça veut dire qu'on t'a fait des putains de références, c'est-à-dire que Mengen a fait du Mengen, c'est incroyable. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de leitmotiv, de références à des films qui ont un aspect vraiment scénaristique depuis Réponse.
Même
depuis Hercule.
Oui, voilà, vraiment.
Depuis Hercule.
Ouais. Pas
qu'on le fasse, d'ailleurs. Ouais. Faut vraiment que ce soit le mec qui a réinstauré ça durant les années 90. Faut que ce soit lui qui le réinstaure encore 20 ans après, 30 ans après. Ouais. Faut quand même qu'il se pose des questions, les compositeurs chez Disney. J'aime beaucoup le coup d'Anson Lopez. J'aime beaucoup Lin-Manuel Miranda. Mais putain, il faut peut-être qu'il le fasse un jour ou l'autre, qu'il se remette en question. Plutôt, est-ce que. Truc bête. Est-ce que Bob Iger, il pourrait pas dire à Alan Menken, excuse-moi mon gars, mais est-ce que tu peux te recharger des chansons pour les films Disney? Parce que là, en fait, on est arrivé sur la fin du cycle Troisième Âge d'Or.
Et ah, ce serait bien là quand même, on est d'accord.
Bah, c'est pas croyable quoi. Il faut que le mec il arrive dans une musique et puis d'un coup ça explose. Dans Ralph 2.0, c'est sa chanson qui a fait le succès du film. C'est sa chanson qui a fait. Qui est la meilleure du film, bref. Love Power, c'est incroyable. Oui. C'est une chanson qui est incroyable.
Et ça va devenir un classique. Je pense vraiment que ça va devenir un classique.
Je l'espère que ça va devenir un classique. C'est comme ça que moi je finis par rapport à la musique. Les orchestrations, vite fait, donc on est sur de l'orchestration à la Menken. Mais à la Menken, plutôt les années 2010, un truc vraiment un peu plus travaillé, mais avec un orchestre symphonique plus fourni encore que dans les années 90. Et on n'est pas sur un truc aussi un peu posé, intimiste et référencé culturellement par rapport aux années 90. Les années 90, chaque musique instrumentale des films des années 90 par Menken, on peut citer une référence à un compositeur classique. Dans Aladdin, il y a des références à Beethoven, Bossu Notre Dame, c'est Mahler, Pocahontas, c'est Dvorak. Là, on n'est pas trop sur ça. Mais par contre, on est vraiment sur une. Bah, en fait, on est sur du Menken.
Sur du Menken, c'est ce que j'allais te dire.
Sur du Menken qui fait confiance à ses orchestrateurs, type Dave Misger ou Danny Troub. Danny Troub qui n'a vraiment pas du tout participé au film, contrairement
c'est
au
rare,
premier.
Hein.
Ouais, et que c'est quand même le duo compositeur-orchestrateur qu'on retrouve assez fréquemment. Est-ce qu'il est parti à la retraite? Est-ce qu'il est pas là? J'ai cherché, hein, vraiment, il n'y a aucune référence.
On va profiter du et ailleurs pour partir du débat.
Remember the memories that show us the power of love. pas de haie ailleurs, parce que le film est vraiment trop récent. Il n'y a vraiment eu aucun truc dans les parcs par rapport à ça. Il y a eu une avant-première, c'est tout, aux USA, mais c'est tout. Par contre, on peut faire un petit débat, une petite remarque, parce que je pense qu'on est plutôt d'accord sur le truc, donc le débat ne servira à rien. C'est qu'en fait, le film actuellement, il se fait démonter par les critiques. Il est à 39% sur Rotten Tomatoes.
C'est fou.
Entre 39 et 45%, ce qui fait que les gens considèrent que c'est une dôme. J'ai vu différentes remarques qui disaient oui, mais elle est où l'autodérision de Disney du premier film ?
Elle est clairement là.
C'est où l'humour, tout ça ?
C'est pas l'autodérision, en fait, mais c'est des références.
C'est ce qu'on appelle un hommage.
C'est ça.
Dans le premier film, Disney a fait un hommage plein d'autodérision. Dans le deuxième film, ils ont fait un hommage, mais pur et dur. Surtout dans le premier film, en fait, ils ont fait beaucoup de dommages au début, aux premières princesses, parce que la deuxième partie était encore trop récente, et puis Mannequin aurait peut-être eu du mal à s'auto-dérisionner. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Moins de 10 ans après, là, je pense que c'est bon. Il y a deux âges d'or qui sont apparus. Je pense qu'il pouvait se permettre de se rendre un hommage. Et encore, l'auto-dérision, elle est pas très présente. Et puis l'autre truc con, c'est les gens, ils voulaient quoi? En fait, je pense que les gens s'en étaient à une seule chose. C'était, ils voulaient un autre film drôle, comme ils avaient vu la première fois. Mais c'est d'un ridicule total. Enfin, imagine, c'est comme si les gens se plaignaient que Kaamelott, le livre 1, il est drôle, le 6, il est beaucoup moins drôle. C'est que dans le 6, bah Arthur, il a changé ses idées, tout ça. Puis le film, il est drôle, mais il est quand même sombre, le film. C'est comme si les gens, ils se plaignaient qu'en fait, bah, on voudrait essayer un truc drôle, un peu potache, un peu lourdingue, tel qu'on l'aime toujours dans le 1, mais jusqu'à la fin du 6, voire dans les films. Là, c'est la même chose. Les gens, ils voulaient quoi? En fait, ils voulaient que Gisèle fasse encore de la princesse nunuche, surtout une image que maintenant Disney aimerait bien éradiquer en disant, bah, les princesses, c'est pas des filles nunuches, c'est pas des cruches qui attendent leur prince charmant. Et puis, ils ont retraité d'un autre sujet très présent dans les dessins animés, c'est le côté les belles-mères. La belle-mère de Blanche-Neige, la belle-mère de Cendrillon, en plus de ça, qui a ses deux comparses qui font penser un peu à Anastasie et Javi. Anastasie et Javotte, plutôt,
oui, c'est ça.
Mais aussi un peu aux sœurs Sanderson et Hocus Pocus. Les gens attendaient que ça. En fait, il faut pas sortir les gens de leur petit confort, c'est pas possible. Enfin, ce qui fait que le film est en train de se faire démonter, je pense qu'au final, le film va peut-être aussi un petit peu perdre de l'importance, n'aura peut-être pas le succès escompté, parce qu'il y a trois connards qui auront dit, enfin, excusez-moi du terme, il y a trois connards qui auront dit, bah non, mais en fait, on n'est pas sur la même chose qu'avant.
Et puis, heureusement qu'on n'est pas sur la même chose, on l'a déjà une fois. Sinon, ça nous fait un Hocus Pocus 2.
C'est ça, c'est un Hocus Pocus 2 qui est peut-être bien, mais qui n'a rien d'extravagant par rapport à moi. On est sur une réelle suite. Enfin, c'est pas juste la meuf. Je sais pas, Gisèle sera partie en Dalasia à la fin du 1, et au final, dans le 2, elle sera partie. Mais là, non, même pas, c'est une réelle évolution. Ça veut dire qu'en fait, qu'en l'espace de 15-20 ans, ben, Gisèle, elle aurait pas évolué, puis ce serait toujours une princesse à la con. Et puis que la gamine, Morgane, et ben 15 ans après, elle aurait aussi encore une mentalité de gamine de 4 ans. Mais c'est un ridicule. Et puis, dans le premier, les chansons, il y a eu 5 chansons qui ont été écrites, qui en plus de ça étaient pas mal incrustées au film, mais qui étaient posées dans le film plus que réellement incrustées.
Et là, c'est...
Là, on a 10 chansons, dont des reprises, telles que la Mannequin sait les faire, qui sont vraiment incrustées au film, qui ont un intérêt narratif. Tiens, ça fait penser à un truc, j'ai pas fait la réflexion. Idia Menzel aidait donc la voix de Elsa dans Frozen.
Oui.
Et ce qui fait que t'as Let It Grow, qui n'est pas du tout apparu dans la traduction française, parce que bien sûr, hein, dire libère-les, délivre-les, ou une référence comme ça, c'était pas possible.
Oui, c'est étonnant que les gens réagissent comme ça.
Oui.
Je comprends pas. Ou alors les gens.
J'ai vu un tweet d'une personne, alors c'est tout, hein, c'est son avis, elle a pas aimé le film, un truc comme ça, pourquoi pas. Moi j'ai vu une personne qui a écrit à la fin, j'ai mal à mon Mannequin, parce qu'elle dit, Mannequin il a pas fait une musique hyper développée, il a fait un peu du cliché, il me dit j'ai mal à mon Mannequin. Putain, Mannequin il a fait du Mannequin, il a fait tout ce qu'on attend du Mannequin, il a fait ce qui fait que les films des années 90 et les films des années 40-50 sont intemporels. Les films actuels de chez Disney, je suis toujours persuadé que les mecs dans le canto, elle restera pas gravée, parce que c'est une musique qui est très actuelle. La musique de Vaiana, ça passe. Il y a des chansons de Frozen qui n'évolueront pas. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme film avec des chansons il y a pas longtemps chez Disney? Ouais, il n'y a plus de film chez Disney aussi, il faut dire.
Mais, pas au cinéma en tout cas.
Mais même sur Disney+. Mais ce sont des chansons qui sont intemporelles des années 40, 50 et des années 90. C'est ça qu'on attend. Si tu demandes, les chansons du Village Jungle sont un petit peu réputées, mais est-ce que tu te souviens encore de celle de Aristochat autant que celle de, je sais pas, La Belle et la Bête ou Aladdin? Est-ce que tu te souviens aussi des chansons de Robin des Bois, trucs comme ça? Beaucoup moins.
C'est
parce qu'en fait, on a des compositeurs qui sont ancrés, qui ont réussi à ancrer un style dans les studios Disney, et qui font qu'on pourra toujours faire la même chose, ça marchera toujours. Et là, on se plaint de ça. On se plaint d'avoir un truc qui est intemporel. Les gens ont dit oui, ça sera un film qui restera pas gravé, et puis les musiques non plus. Mais je vois pas pourquoi
les musiques,
mais il faut qu'elles soient gravées. Malheureusement non, elles seront pas gravées parce que le film se fait démonter, personne n'aura envie de voir le film. Et en plus de ça, il était mis sur Disney+. Alors bien sûr, il était sur Disney+, il aura encore moins de visibilité. Comment dire, si en fait le film aurait eu la portée qu'il faut, il aurait eu la vente qu'il faut, les chansons seraient restées gravées. Plus que celles du premier. C'est vraiment mon coup de gueule, en fait.
Ils ont démonté leur film aussi, en faisant ça. On en parlait déjà avant. Hein.
Je suis d'accord.
Parce que ça, j'aurais adoré le voir sur grand écran avec un super son. Et en plus, ils ont mis de l'argent dedans. Ça se voit, c'est pas du carton-pâte.
Non, mais Chapek, c'est des questions à se poser. Si cette émission Disney Plus et pas au cinéma, alors qu'ils auraient peut-être pu trouver un arrangement. Enfin, ouais, c'est le genre de film qu'on dit qui le mériterait. Tout comme il y a les Pixar qui sont sortis directement sur Disney Plus, alors qu'ils étaient visuellement beaux, mais peut-être pas intéressants sur le plan scénaristique, mais visuellement beaux. Je pense à Alerte Rouge ou à Lucas.
Oui.
C'est mon avis. Mais oui, ça, c'est un film qui aurait mérité de sortir au cinéma, parce que c'est un grand film. Ça dure 2 heures en plus, c'est hyper conséquent. Il y a une mise en scène qui est incroyable derrière, il y a eu du budget, il y a eu tout ce qu'il fallait. Le Kevin Lima, qui est donc celui qui a fait le premier film, n'a même pas du tout été appelé. Alors, il y a eu un article qui est sorti sur la presse américaine un peu people, un peu de divertissement,
ouais,
qui titrait Kevin Lima, I'm so sad.
Okay.
En gros, tu vois le truc, t'as envie de te dire, hey, Lima, il a vu le film, il a été vraiment déçu. Et en fait, juste, Lima n'a pas vu le film du tout. Il n'a pas envie de le regarder parce que les studios Disney ne l'ont pas appelé. Jamais. Il n'a jamais été mis en lien avec les studios Disney pour la préparation, pour le développement de Is Une Fois Deux. Peut-être le mec qu'il fallait le plus appeler, je pense. Avec Mencken et Schwartz.
Alors c'est triste pour lui, mais ça arrive souvent.
Ça arrive, en fait, c'est con, mais ça peut arriver souvent, mais pas sur un film tant attendu. Quand tu regardes ceux de Hocus Pocus 1, ils sont dans le 2.
Ah, mais quand tu vois Harry Potter, ça a changé énormément de fois de réalisateur.
Oui, mais t'as J.K. Rowling derrière, qui permet un petit peu la continuité. Puis je pense que si tu cherches un petit peu, ils ont tous travaillé ensemble.
Peut-être, ça,
là, le problème, c'est que, en fait, t'as vraiment, à part Mencken et Schwartz, t'as vraiment l'équipe créative du film qui a du premier,
oui, même au scénario,
qui a totalement disparu dans le deuxième. En fait, c'est une très grosse mauvaise pub pour un film qui ne le mérite vraiment pas.
Oui.
Et je pense qu'en fait, les gens, ils devraient peut-être... Désolé de dire ça va pas être gentil. Si les gens qui nous écouteront en podcast, enfin qui vont nous écouter en podcast, ou ceux qui regardent actuellement, je suis désolé pour eux si je veux dire ça, c'est un peu méprisant. Mais je pense que parfois les gens devraient un petit peu s'ouvrir, ouvrir leur esprit, puis ouvrir leurs oreilles, puis leur cerveau, et puis vraiment consommer consommer un produit, mais comprendre tout l'aspect artistique derrière, et pas lire 3 critiques sur Rotten Tomatoes, il se fait démonter pour être de la merde. Enfin, je suis désolé.
Tu vis à 41%.
41%. C'est honteux. Voilà, je suis en colère. Alors, il y a aussi ce problème du début du film, mais en fait, c'est tout un intérêt. Je pense que les gens ont dû s'arrêter. C'est le problème aussi d'avoir un film sur Disney+, c'est que si au bout d'un quart d'heure ça convient pas, tu l'arrêtes et après tu démontes le film.
C'est ça.
Le premier quart d'heure est un peu chelou. La première demi-heure, tu disais aussi. Donc le premier quart d'heure, la première quart d'heure de demi-heure est un peu chelou par rapport au reste du film. Mais en même temps, c'est fait exprès.
Aïe.
C'est fait exprès, parce que imagine si Gisèle n'avait pas toujours ce comportement de princesse d'Andalasia, cucu, naïve, innocente, tout ça, bah en fait, ça s'ouvrait pas Morgane. Donc il n'y aurait pas le vœu, donc il n'y aurait pas tout ça. Donc l'exagération, elle est là. C'était même, tiens, les gens attendaient que ça, les gens attendaient un petit peu d'autodérision et puis de l'humour, et puis que Disney se foute de sa propre gueule. Ils l'ont fait au début, ça ne plaît pas. Bref, je suis en colère. Puis passez un joyeux Noël. Salut, au revoir.
Et bah écoutez, est-ce qu'on finit là-dessus ?
Merde ! Si c'est bon, ça marche.
Mais en vrai, moi je comprends tout à fait, je suis assez d'accord avec toi aussi en vrai. Écoutez, c'est la vie.
C'est un peu méprisant, hein, ce que c'est vraiment un peu méprisant ce que je disais. Hein. J'ai un peu de mépris pour les gens en fait qui n'ont pas réussi à comprendre le truc derrière. Qui se sont arrêtés en fait, on entend un truc dans un film Disney, et puis j'attends que ça colle de la part de Disney. Puis dès qu'on fait autre chose, en fait, ça marche pas. Mais Pocahontas a subi ça aussi parce qu'ils ont fait autre chose, et Potion Crème aussi, puis la Belle au Bois dormant aussi a subi ça.
On va voir si Disenchanted reste dans les annales ou pas.
Je ferai tout.
Est-ce qu'il y aura il était une fois 3 ou il était 3 fois ou
Normalement, il n'y a pas de.
Non, je pense pas qu'il y ait de suite.
Parce que dans le 1, il y avait quand même une petite ouverture par rapport à ça. Il y avait le fin était un petit peu ouvert. Oui. Là, je pense que le fin est vraiment définitif. On peut pas. Il n'y a pas possibilité d'avoir une troisième.
Et je pense qu'ils ont justement très bien fini. Très bien fini, honnêtement. C'est logique, il n'y a pas de souci. Si jamais ils veulent faire une série avec Sophia ou Morgane un jour, qui va voir Andalasia, des trucs comme ça, pourquoi pas. Ouais. Ils ont toujours cette ouverture-là, mais pas en film. Eh bien écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. Merci Max d'avoir décortiqué cette belle musique.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir pu redécortiquer des musiques qui sont aussi qualitatives que celles de Disenchanted 2. Refaire du mannequin, ça faisait du bien. On n'avait pas fait de mannequin depuis un petit bout de temps. On n'avait pas fait du mannequin depuis. Ouais, si, c'est vrai. Par rapport au dessin animé, on n'a pas fait de mannequin depuis.
Pocahontas,
je crois. Ouais.
Pour parler du deuxième volet, il a fallu qu'on décortique le premier qui est disponible en podcast. La Disney's Music Box est un live et la bête avec Rien que d'y penser, Flan Secret Disney, Music Land et le label et l'apéro. Non, ouais. Oui, c'est ça, le label et l'apéro.
C'est le label et l'apéro, ouais.
Oui, voilà. Max, on peut te retrouver sur Musicland et sur la Belle et l'Apéro. Il y a quoi de nouveau?
C'est ça. Ben, pour rappeler, hein, la Belle et l'Apéro, ce contenu où vous êtes chez vous, vous nous regardez en train de boire une bière, puis prenez une bière, comme ça vous parlez avec nous, puis nous, on est tous contents.
Et quant à moi, on peut me retrouver sur Secret Disney. Et pour ceux qui écoutent en podcast, venez sur nos lives sur Twitch. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon et Utip, et il y a aussi un wiki. Restez bien sûr pour la reprise finale. À très vite, salut Max, à la prochaine.
Et puis n'oubliez pas le pouvoir de l'amour.
Ever needed magic, we could use it now. And if spells and wands won't work, we'd find a way somehow. Can we find some new power? If we ever needed magic, this would be the day. Can we find magic, Morgan? Doesn't matter how unmemorable they seem. Ordinary moments, like a local laugh you shared, can bring a gleam of light in your bleakest, darkest hour. Memories can save us, Morgan. When you add them up, they paint a picture bright. All the love you've given and the love you have received, and in that love there's power. Love, power. Feel it flowing through like a rushing stream. There are those who just love power, and they throw us down a well of despair. They don't understand that why they live in hate and fear. Look what's right there. Love, power. Love, love, power. We can always choose to use it if we dare. Find it in the memories we share, and we need it like the sun and light and air. So when you're in need of magic, this is where to go. Find the song inside you that your memories seem to know. Let it glow, let it grow. Sunshine melts a cave of ice. So we'll sing it out until the world will sing along. What makes us strong? Love, power. Love, love, power. It's like soaring on a magic broomstick to the sky above.